Bonjour Sonia Mabrouk.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
8h30, on est ensemble pour une demi-heure d'infos.
Europe 1, il est 8h01.
Je suis le veto et malgré ça, voilà, je suis en retard quoi.
La galère pour les voyageurs franciliens, vous y échapperez difficilement. Grève massive de la RATP et premier coup de semonce contre la réforme des retraites.
Une réforme défendue par le Premier ministre Édouard Philippe, prudent quant à la méthode et constant sur le message aux Français.
Il faut dire la vérité aux Français, nous allons travailler plus longtemps.
Et justement, la réforme des retraites, vous en parlerez à votre invité, 8h15, Sonia.
Gérald Darmanin, le ministre de l'Action et des Comptes Publics, les retraites, c'est de la nitroglycérine pour le gouvernement, à manier avec prudence.
Porta, à la frontière avec la principauté d'Andorre, c'est une commune peuplée d'irréductibles, non pas gaulois, mais une poignée d'habitants qui ne veut pas céder un pouce de terrain.
Ça me fait mal au cœur quand j'arrive sur ce site, parce que j'avais l'habitude d'y venir souvent. C'est parti, un territoire andorran, j'en ai un peu les larmes aux yeux presque.
Ce dimanche, jour d'élection en Tunisie, moment de vérité pour cette jeune démocratie. À suivre dans ce journal, l'éclairage de Vincent Hervouette.
Il est 8h02. Bon réveil à toutes et à tous sur Europe 1.
Europe 1. Le journal Mathieu Béliard, Sonia Mabrouk.
Premier acte de la contestation contre la réforme des retraites, la grève massive des agents de la RATP signe le début d'une grogne qui pourrait prendre de l'ampleur. En attendant, c'est la galère pour les voyageurs franciliens.
Bonjour Carole Ferry.
Bonjour.
Vous êtes à Fontenay-sous-Bois, en banlieue parisienne, galère, comme le dit Sonia, même si on peut noter un léger mieux depuis quelques minutes.
Oui, bah, je vais vous dire, c'est un tout petit peu mieux en effet, parce que tout simplement, il y a des trains à cette heure-ci, un RER toutes les 20 minutes environ. Mieux, mais enfin, loin d'être parfait quand même. Hein. Beaucoup de Franciliens ont avancé lors de leur réveil, et malgré ça, le bureau paraît encore très loin.
Je me suis levé à 5h, alors que normalement je me lève à 7h. Et malgré ça, je suis complètement en retard. Je suis en retard, quoi.
C'est chiant parce que je vais arriver en retard, je le sais déjà. Et puis ce soir, je rentrerai plus tard. Donc ça sera une petite journée sympa, un vendredi avant d'être en week-end. C'est toujours agréable.
Mais vraiment le plus difficile, ça a été très tôt ce matin. Pas un seul train, pas un seul train avant 6h30. Puis ce qui inquiète maintenant, vous l'avez entendu à l'instant, ce sont les retours. Les trains circuleront au compte-gouttes uniquement entre 17h et 20h. La vraie galère, vous savez, en fait, elle est pour ceux qui travaillent en horaire décalé.
Merci Carole Ferry à Fontenay-sous-Bois. Et sur les routes, la situation reste très compliquée. 272 km de bouchons cumulés à l'heure où je vous parle en Ile-de-France. C'est bien au-delà de la normale. Alors si vous êtes bloqué, si vous subissez cette grève de la RATP, appelez-nous au 3921. Témoignez de vos conditions de transport Europe 1 à vos côtés en cette journée particulière.
Et cette grève a aussi un impact dans les entreprises. Il va manquer beaucoup de monde ce matin. Certains seront en retard, d'autres ne seront pas là du tout. Alors comment tout cela s'organise ?
Eh bien dans les grandes entreprises, des solutions alternatives ont été prévues comme le télétravail, le covoiturage. C'est moins évident chez les commerçants que Justin Morin a rencontré.
C'est ça, une journée très difficile, compliquée à gérer. On n'a pas le choix.
Beaucoup de résignation chez les commerçants et artisans parisiens que j'ai rencontrés. Ces petits patrons doivent assurer une présence en magasin, comme chez cette fleuriste où travaille Bolani, la responsable, et Pauline, son apprentie, qui, elle, ne pourra pas venir en boutique ce matin.
C'est vraiment embêtant, mais bon. En plus, je viens de commencer mon travail. Alors, dès la première semaine, ne pas pouvoir venir. Puis même pour la patronne, c'est embêtant. Elle a besoin de moi et voilà.
Alors, on va aller voir justement la patronne qui est juste là.
Bah, je subis, c'est tout. On sera fermé demain matin. Parce que je serai à Rungis, donc je ne peux pas être en même temps à la boutique. Tant pis pour nous.
Dans les grandes entreprises, on s'adapte. Les retards seront tolérés. Mais la solution privilégiée quand c'est possible, c'est bien sûr le télétravail, comme chez PopChef, service de livraison de repas en entreprise. François Defitte, son cofondateur, s'attend à une journée très calme.
Il n'y aura quasiment personne. Et on va quand même être impacté négativement par cette grève. On sait que pour nos clients, ça va être très difficile de se rendre sur leur lieu de travail. Donc on s'attend à une baisse de 30 à 50% des ventes sur la journée de demain, ce qui est non négligeable.
Des entreprises ont aussi mis en place des réseaux internes de covoiturage pratiques malgré les kilomètres de bouchons prévisibles dans la capitale.
Le reportage de Justin Morin pour Europe 1.
Il est 8h05. Édouard Philippe a apporté son soutien et manifesté son amitié à Richard Ferrand, le président de l'Assemblée mis en examen pour prise illégale d'intérêt dans l'affaire dite des mutuelles de Bretagne, affaire dans laquelle la compagne de Richard Ferrand a été placée hier sous le statut de témoin assisté.
Le Premier ministre qui s'exprimait aussi et surtout pour défendre la réforme des retraites, le ton se veut mesuré, mais sur le fond, un message est martelé.
Il faut dire la vérité aux Français. Compte tenu des évolutions démographiques, compte tenu du rapport entre le nombre d'actifs qui payent les retraites et le nombre de retraités qui touchent les pensions. Nous allons travailler plus longtemps. Nous travaillons déjà un peu plus longtemps, L'âge moyen de départ à la retraite est de 63 ans et demi en France, là où il aurait pu être de 62 ans compte tenu de l'âge légal. Nous allons travailler un peu plus longtemps, ça va se faire progressivement, mais nous allons le faire. Et nous allons devoir mettre en place les instruments qui permettent de prendre en compte non pas les postures ou les principes, mais la réalité.
Le Premier ministre Édouard Philippe aux 20h de TF1 hier.
13h30. Aux alentours de 13h30, ce sera l'heure du jugement pour les époux Balkany dans le dossier de la fraude fiscale.
Il s'agira du premier des deux jugements attendus après le procès très médiatique du printemps. Alors on a tous en mémoire les coups de colère, le ton hâbleur et les longues digressions de Patrick Balkany. Quel sera le verdict tout à l'heure? Bonjour Chloé Triomphe. Les époux Balkany risquent-ils vraiment de se retrouver en prison?
Eh bien, dans la famille Balkany, c'est Patrick qui risque le plus gros devant les juges. 4 ans ferme requis par les procureurs avec mandat de dépôt à l'audience contre 4 ans, dont 2 avec sursis pour son épouse Isabelle. Cette dernière, qui va se rendre pour la première fois au tribunal tout à l'heure, on rappelle qu'elle était absente tout le procès après sa tentative de suicide. Cette dernière donc confiait cette semaine à Europe 1 que ce serait quand même étonnant de partir en prison, sauf si les juges voulaient faire un exemple, tout en rappelant qu'ils seraient bien les premiers politiques à aller en prison pour fraude fiscale. Dernier exemple en date, Jérôme Cahuzac, qui avait échappé à l'incarcération. C'est donc avec une confiance apparente que le couple se rend à son jugement, aux côtés de leur fils Alexandre et des 3 autres prévenus. Mais c'est en réalité la deuxième échéance qui peut les inquiéter davantage. Le jugement du deuxième volet du procès, ce sera le 18 octobre, où là aussi le parquet a demandé une incarcération immédiate avec 7 ans de prison requis et la confiscation de tous leurs biens.
Chloé Triomphe du service police-justice d'Europe 1. Puis c'est une information qu'Europe 1 vous révèle ce matin. Un couple de gilets jaunes a été arrêté cette nuit en flagrant délit à Albertville en Savoie. Ils venaient de mettre le feu à un radar automatique. 2 autres suspects ont également été interpellés pour des faits similaires.
Europe 1. Vous restez bien sur Europe 1. Dans un instant, l'histoire de ce petit village français qui fait de la résistance. Petit village qui se bat pour ne pas perdre quelques hectares au profit de la principauté d'Andorre. C'est la France à qui on a supprimé quelques hectares. A tout de suite, le journal continue sur Europe 1.
Il est 8h08. Europe 1, il est 8h09, la suite du journal, Sonia Mabrouk, Mathieu Béliard.
Depuis cet été, la France est plus petite. C'est l'histoire d'un petit village français qui résiste, écoutez bien, un petit village grignoté à son insu par la principauté d'Andorre.
Oui, colère du maire de Porta dans les Pyrénées-Orientales pendant l'été et en son absence, des bornes frontières avec l'Andorre ont été installées et son village qui compte, certes seulement 12 habitants, mais attention, 12 habitants en colère, découvrent que la commune voisine de l'autre côté de la frontière lui a volé 24 hectares, Mathieu.
L'élu ne va pas se priver de se plaindre auprès d'Emmanuel Macron. Le président est en visite aujourd'hui en principauté d'Andorre, où Benjamin Peters s'est rendu pour Europe 1.
Là, je suis à Porta, sur la France. Je fais un pas de plus. Là, je suis territoire d'Andorre, commune d'Ancam. Tout ça, c'est plus à nous. C'est fou. C'est fou.
Marius Hugon est sidéré. Malgré le plan napoléonien qu'il conserve en mairie et qui place ses 24 hectares en France, les nouvelles bornes en granit installées cet été font reculer sa commune d'une 50aine de mètres. La source de l'Ariège passe en Andorre, le lac de Fontnègre, où lui et ses administrés viennent parfois pêcher, est coupé en deux.
Et si je lance un bon coup, je vais arriver au milieu du lac, donc en Andorre, donc je risque pour ce verbal. Moi, j'en veux mon État français qui ne nous a pas soutenu et défendu la frontière telle qu'elle était autrefois. Ça me fait mal au cœur quand j'arrive sur ce site, parce que j'avais l'habitude d'y venir souvent, hein, pour venir me balader. C'est parti en territoire andorran, j'en ai un peu les larmes aux yeux presque.
À Porta, Henri ne comprend pas que ce petit pays voisin grignote les terres de son village.
C'est une honte de voir qu'on nous vole le territoire, c'est pas possible. Ils peuvent continuer à la pousser, à la frontière.
Pour le maire, c'est l'eau potable qui intéresse les Andorrans pour alimenter la commune du Pas-de-la-Case. Il n'a pas été convié au déplacement d'Emmanuel Macron aujourd'hui, mais il compte bien demander au président de la République et qu'au prince d'Andorre qu'on rétrocède à sa commune la propriété de ses terres. À Porta, Benjamin Peter, Europe 1.
Une bonne nouvelle à présent, elles sont assez rares pour être soulignées. Google solde ses comptes avec la France. Une concession importante et un paiement à venir de près d'1 milliard d'euros. Oui, Google reconnaît ainsi qu'il n'a pas payé tous les impôts liés à ses activités en France. Le contentieux entre le fisc français et le géant américain durait depuis quelques années.
Bonjour Gilles Babinet.
Bonjour.
Vous êtes vice-président du Conseil national pour le numérique. Alors aux États-Unis, on peut payer ainsi pour solder une procédure. Est-ce qu'on importe le système américain avec cette décision ?
Manifestement, c'est le cas ici. Il y a eu effectivement une transaction entre le ministère des Finances et Google avec l'idée de solder les comptes, sans doute en prévision d'un futur que tout le monde souhaite un peu moins compliqué.
Et à l'avenir, ils vont payer des impôts, Google, Gilles Babinet ?
Ben oui, il faut effectivement penser que c'est sans doute conscient du fait qu'il perd les batailles, que Google se décide d'accepter, finalement de reconnaître qu'il doit de l'argent au fisc français. Et finalement, c'est un préalable, je pense, assez important.
Merci Gilles Babinet, vice-président du Conseil national pour le numérique et cette question de Google et de ce paiement de près d'1 milliard d'euros. Vous en parlerez Sonia évidemment, 8h15, l'invité politique de la matinale, le ministre de l'Action et des Comptes Publics, Gérald Darmanin.
Il est 8h13 sur Europe 1.
Dimanche, jour d'élection et ça se passe en Tunisie.
Les citoyens tunisiens sont appelés aux urnes pour désigner un nouveau président, moment délicat et plein d'incertitudes pour cette jeune démocratie. Bonjour Vincent Hervouet.
Bonjour Sonia.
Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'en manque pas. Bonjour, des candidats monsieur. À la présidentielle.
Mais il y a 26 candidats à la succession de Béji Caïd Essebsi, le vieux président terrassé par un AVC fin juillet. De Gaulle prédisait qu'après lui, il n'y aurait pas le vide, mais le trop-plein. Et en Tunisie, c'est injuste, car il y avait autant de candidats la dernière fois. Mais trois choses ont changé depuis 2014. Le paysage politique s'est émietté. Le seul parti présidentiel présente une dizaine de candidats. Les islamistes en alignent trois autres. C'est l'heure du « pourquoi pas moi ?». Il n'y a pas trop de programmes, mais on discute du chômage, des inégalités sociales, du terrorisme un peu moins. Tous réclament un État fort. En Tunisie aussi, le populisme est de saison. Secondo, les municipales avaient mobilisé l'an dernier un électeur sur trois. On ne sent plus cette fatigue démocratique. Au contraire, tout le pays a suivi les débats télévisés, une première dans le monde arabe. La Tunisie continue de montrer l'exemple. Enfin, le favori des sondages est derrière les barreaux. On connaît des présidents qui règnent en se cachant. Nabil Karoui fait campagne au cachot. Son meilleur meeting, c'est la grève de la faim que l'affairiste a entamée avant-hier. En face, les islamistes d'Ennahda dévoilent pour la première fois leur ambition. Abdel Fattah Mourou à la barbe courte et les idées un peu plus larges. Le suspense est total. Les résultats mardi.
Barbe courte et idées larges. On va retenir la formule. L'éclairage international de Vincent Hervouet dans le journal de 8h. Merci Vincent.
En bref, deux infos pour terminer. La demi-finale au Mondial de basket des Bleus. Ils affrontent l'Argentine à 14h. Notez-le bien. Et puis, dans un autre domaine pour les amoureux et les amoureuses de la mode, la Fashion Week de Londres débute ce vendredi à 48 jours de la date prévue du Brexit. Un Brexit auquel s'oppose l'industrie de la mode britannique. Elle y est farouchement opposée. D'ailleurs, Sonia, vous parlerez Brexit avec votre invité.
Oui, et surtout des entreprises françaises touchées par le Brexit. Qu'est-il prévu précisément sur ces sujets et d'autres? Gérald Darmanin, le ministre de l'Action et des Comptes Publics, c'est à suivre sur Europe 1.
Il est 8h15. Vous restez bien sur Europe 1, l'interview politique à suivre. Donc Nicolas Canteloup à 8h40, je le rappelle. Bon réveil à tous. Europe 1.